dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes, vous êtes dans le royaume de l'intermédiaire en compagnie de Pascal sur le 102.0, 103.3 et le 104.1. Et puis vous pouvez retrouver nos émissions sur le www.radioescapades.org. Voilà, alors en ma compagnie aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous transmettre au travers de passages littéraires prélevés sur une presse hebdomadaire qui, comme le Midi Libre, avec ses dictons, nous fait des pépites d'or nommées pain de méninge. Alors ce sont des petits passages que je vais vous convier avec 17 semaines réunies, n'est-ce pas ? Et dans un premier temps en intro, ce sera « Quelle attitude chez l'homme ?» suivi de « L'homme » avec un H majuscule. Ensuite, « L'homme » et toute une politique. Puis, « L'homme et ses sentiments ». Pour terminer avec l'homme en conclusion, point d'interrogation, n'est-ce pas ? Alors je vais commencer. Je vais commencer avec ce petit passage de pain de méninge de Grégory Reuze dans son livre « Né à néant », les 10 entendements. Tu ne te justifieras point, tu ne jugeras pas ton prochain. Pour le silence, tu opteras, de la raison, tu octroieras. Tu seras et en assumeras toutes les conséquences. De l'imaginaire, tu t'exorciseras. Tu penseras ton corps, tu vivras ta pensée. De perspective, tu t'enrichiras. Par décence, tu agiras. N'est-ce pas beau ? Suivi, toujours dans le thème donc, de l'attitude chez l'homme, la culture. Qu'est-ce que la culture ? La culture, ce n'est pas avoir le cerveau farci de dates, de noms ou de chiffres, c'est la qualité du jugement, l'exigence logique, l'appétit de la preuve, la notion de la complexité des choses et de l'arduité des problèmes. C'est l'habitude du doute, le discernement dans la méfiance, la modestie d'opinion, la patience d'ignorer, la certitude qu'on n'a jamais tout le vrai en partage. C'est avoir l'esprit ferme sans l'avoir rigide. C'est être armé contre le flou et aussi contre la fausse précision. C'est refuser tous les fanatismes et jusqu'à ceux qui s'autorisent de la raison. C'est suspecter les dogmatismes officiels, mais sans profit pour les charlatans. C'est révérer le génie, mais sans en faire une idole. C'est toujours préférer ce qui a ce que on préférerait qui fût. C'est-il pas joli ? C'est de Monsieur Jean Rostand. Et nous allons terminer cette petite introduction avec le scandale de la liberté. Alors, cette liberté tant cherchée, cette liberté chérie, chérie, comme disait Madame Sapriche. Au commencement, je vous disais que le scandale de la création n'était pas la souffrance, mais la liberté. J'aurais pu aussi bien dire l'amour, si les mots avaient gardé leur sens. Je dirais que la création est un drame de l'amour. Les moralistes considèrent volontiers la sainteté comme un luxe. Elle est une nécessité. Aussi longtemps que la charité ne s'est pas trop refroidie dans le monde, aussi longtemps que le monde a eu son compte de saints, certaines vérités ont pu être oubliées. Elles reparaissent aujourd'hui comme le roc à marée basse. C'est la sainteté, ce sont les saints qui maintiennent cette vie intérieure dans laquelle l'humanité se dégradera jusqu'à périr. C'est dans sa propre vie intérieure, en effet, que l'homme trouve les ressources nécessaires pour échapper à la barbarie. Ou à un danger pire que la barbarie, la servitude bestiale de la fourmilière totalitaire ? Oh, sans doute, on pourrait croire que ce n'est plus l'heure des saints, que l'heure des saints est passée, mais, comme je l'écrivais jadis, l'heure des saints vient toujours. Monsieur Georges Bernanos, nos amis les saints, conférence prononcée à Tunis en 1947. Je vais vous faire une petite pause musicale pour poursuivre ensuite avec l'homme, avec un grand H majuscule, avec Park Jung et Seola Sisu. Seola, deux jolies voix qui se marient très bien. Et oui, je continue toujours à vous faire connaître des morceaux de la Corée du Sud. Et le titre, c'était Sisu. Voilà, nous poursuivons toujours dans le royaume de l'intermédiaire sur Radio Escapades. J'aime dire le S. Voilà, je poursuis donc ma petite balade sur l'homme maintenant avec un grand H au travers de ses pains de méninge. Homo oeconomicus. Quelle malédiction a frappé l'Occident pour qu'au terme de son essor, il ne produise que ses hommes d'affaires, ses épiciers, ses combinards au regard nul et au sourire atrophié que l'on rencontre partout en Italie, en France, en Angleterre, de même qu'en Allemagne. Est-ce cette vermine que devait aboutir une civilisation aussi délicate, aussi complexe ? Peut-être fallait-il en passer par là, par l'abjection, pour pouvoir imaginer un autre genre d'homme ? Monsieur Émile Sioran, dans son livre « Histoire et Utopie ». C'est pour aussi vous donner l'envie des fois de prendre des livres auxquels vous n'entendez pas parler et qui peuvent être intéressants à découvrir. Nous poursuivons toujours dans cet homme avec un H. La parole contre le meurtre, d'après Pierre Legendre dans La fabrique de l'homme occidental. Que signifie le vide pour l'homme ? Nous savons qu'il faut du vide entre les lettres pour qu'il y ait des mots. Et que sans la séparation des mots et des choses, il n'y aurait pas de vie dans l'espèce humaine. Le langage nous sépare des choses. Il sépare l'homme de son semblable et de lui-même. Le langage est le miroir pour l'homme. Partout où le constate, au cours de notre histoire ensanglantée, là où les humains ne supportent plus la parole, réapparaissent le massacre. C'est pas bien dit ? Toujours Pierre Legendre. Je poursuis. Une nouvelle race d'hommes avec Monsieur Christian Bobin. La Terre se couvre d'une nouvelle race d'hommes, à la fois instruits et analphabètes, maîtrisant les ordinateurs et ne comprenant plus rien aux âmes, oubliant même ce qu'un tel mot a pu jadis désigner. Quand quelque chose de la vie les atteint malgré tout, un deuil ou une rupture, ces gens sont plus démunis que des nouveau-nés. Il leur faudrait, alors, parler une langue qui n'a plus cours, autrement plus fine que le patois informatique. C'est pas beau ? Christian Bobin. Et pour terminer toujours dans la désignation et la grande folie des hommes avec un grand H, ça inclut la femme, quand c'est avec un grand H, je le précise. Au seuil de l'abîme naît l'humain. Savez-vous ce que chaque homme devrait être, au moins une fois dans sa vie ? Un chaudron de cire bouillante, un bâton de dynamite prêt à exploser, un rapide au seuil de sa cataracte. S'il n'a jamais éprouvé le bouillonnement de son âme, l'instant précédant l'explosion, le basculement dans un abîme inconnu et mystérieux, il n'aura pas été homme, pas été vie, pas été cosmos. Ce qui a créé la Terre et l'homme était sans nul doute en état d'ébullition, d'explosion, de bascule devant l'abîme mystérieux du nouveau et de l'inattendu. Vladeta Gerotic, psychiatre et théologien, pardon, 1924-2018. C'est un discours qu'il a eu en 1945. Ensuite, nous allons poursuivre avec la période de l'homme et toute une politique. Alors, toute cette politique, évidemment, on ne va pas prendre des partis. Hein. On ne va pas partir dans ce principe-là, mais dans des principes politiques un peu philosophiques. Nous allons commencer par Prométhée. Prométhée revient d'Albert Camus. Notre grand Albert Camus dans Prométhée aux Enfers. Voici le passage. L'humanité aujourd'hui n'a besoin et ne se soucie que de technique. Elle se révolte dans ses machines. Elle tient l'art et ce qu'il suppose pour un obstacle et un signe de servitude. Ce qui caractérise Prométhée, au contraire, c'est qu'il ne peut séparer la machine de l'art. Il pense qu'on peut libérer en même temps les corps et les âmes. L'homme actuel croit qu'il faut d'abord libérer le corps, même si l'esprit doit mourir provisoirement. Mais l'esprit peut-il mourir provisoirement ? En vérité, si Prométhée revenait, les hommes d'aujourd'hui feraient comme les dieux d'alors. Ils le clouerait au rocher. Au nom même de cet humanisme dont il est le premier symbole. Les voix ennemies qui insulteraient alors le vaincu seraient les mêmes qui retentissent au deuil de la tragédie échilienne, celle de la force et de la violence. Je répète, Albert Camus. Nous poursuivons, mais avant, nous allons encore faire une petite pause musicale, toujours un peu coréenne, avec Bunjin. Home. Bunjin Home, vous êtes en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire. Nous poursuivons notre petite balade, en plus de celle de Bunjin qui était très jolie, avec les rendre complices dans le crime. Alors là, c'est de Just Mirlo qui a écrit Rapt de la pensée et de la psychologie des foules. Hitler savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il a livré les camps de concentration allemands aux pulsions déchaînées de ses troupes d'assaut. Laissez-les tuer, massacrer, tel était le mot d'ordre. Une fois qu'ils sont allés aussi loin avec moi, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. La stratégie de criminalisation, ne vise pas seulement à détruire les victimes du régime totalitaire, mais aussi à donner à l'élite des bourreaux. Les gouvernants, cette vile sensation de toute puissance qui les éloigne toujours plus de tout sentiment humain, leurs victimes deviennent des gens sans identité humaine, de simples masques parlants. J'aime ce petit passage. Et des robots sans personnalité. La stratégie de criminalisation est la mobilisation systématique des passions inférieures chez les hommes, en particulier chez ceux que le dictateur doit considérer comme ses auxiliaires directs. Ça, c'est une belle définition, n'est-ce pas, du rapt de la pensée, par M. Just Mirlo. Nous poursuivons avec Bernard Charbonneau, l'État. 1943-1949, pire que le viol et l'incendie, le fonctionnaire. Pendant l'occupation, le monstrueux, c'est l'hitlérisme, mais aussi une civilisation où des gens communs de tous les jours, des médecins, des cheminots, des professeurs, en arrivent à exécuter leurs tâches professionnelles sans s'interroger sur elles. Parce que telle est l'habitude, parce qu'on ne doit pas se poser le problème du mal à propos des choses qui vous touchent de très près. Parce que la seule obligation concevable pour les plus dévoués à leur prochain, c'est de faire bien son boulot. Voilà qui est infiniment plus terrible que le viol ou l'incendie, c'est l'existence d'organisations dont les membres sont devenus de purs fonctionnaires. Des instruments qui servent n'importe qui pour n'importe quoi. Car si les États modernes veulent tout, c'est grâce à une telle mécanique qu'ils peuvent tout. Bernard Charbonneau. Vanité du vote. Poursuivons, toujours dans la politique de l'homme. Le scrutin, tel que nous l'avons observé, d'après Ernst Jünger, dans ses essais, s'est changé en un concert d'automates, réglé par une organisation unique. L'individu peut être contraint d'y perdre part ou d'y prendre part, et le sera. Il faut seulement qu'il connaisse l'égal néant de toutes les cases qu'on lui permet d'occuper sur cet échiquier. Peu importe que le gibier court ici ou là, du moment qu'il reste entre les toiles des rabatteurs pour lequel ils sont financés. Et nous poursuivons et finissons dans la partie politique avec Frédéric Bastiat, 1801, je précise, et 1850. Alors lui, c'est un visionnaire. 150 ans plus tard, ça n'a pas changé. Les fauteurs de guerre. De toutes les classes d'hommes, la plus belliqueuse est certainement celle des journalistes. Ils ont le bonheur de ne laisser sur le champ de bataille ni leurs jambes, ni leurs bras. C'est le paysan qui est la chair à canon. Et quant à eux, ils ne contribuent aux frais de la guerre qu'autant que leur coûte une fiole d'encre et une main de papier. Il est si commode d'exciter les armées, de les faire manœuvrer, de critiquer les généraux, de montrer le plus ardent patriotisme, la bravoure la plus héroïque, et tout cela du fond de son cabinet, au coin d'un bon feu. C'est très bien dit, monsieur Frédéric Bastiat. Je vous félicite. Nous allons maintenant passer dans la partie de l'homme et ses sentiments, ce qui est bien plus joli. On va passer dans une ère un peu plus poétique. Et là, avec Eugène Ionesco. Une société sans art. Oh mon Dieu, quelle horreur, je préfère même pas y penser. Mais je vous lis. C'est tellement si bien dit. L'homme moderne universel, c'est l'homme pressé. Il n'a pas le temps. Il est prisonnier de la nécessité. Il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile. Il ne comprend pas non plus que, dans le fond, c'est l'utile qui peut être un poids inutile accablant. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots, un pays de gens malheureux, de gens qui ne rient pas ni ne sourient, un pays sans esprit. Où il n'y a pas d'humour, où il n'y a pas le rire, il y a aussi la colère et la haine. Bravo monsieur Eugène Ionesco, vous n'avez pas vieilli d'une ride. Note et contre-note. Voici son livre. Je poursuis avec monsieur Alain Danielou, Le chemin du labyrinthe. Petit passage, un monde d'agités et de malheureux. La recherche de la prospérité étouffe celle de la sagesse et du bonheur de vivre. Je me suis interrogée sur les raisons qui rendaient les Occidentaux modernes si agités et en somme assez rarement heureux. Les Aryens, dont sont issus la plupart des peuples qui ont dominé l'Europe, les Achéens, les Doriens, les Celtes, les Romains, les Germains, les Russes sont des peuples prédateurs. Ayant récemment envahi une grande partie de la planète, peuplé les Amériques et l'Australie, imposé leur langue à l'Afrique et parfois même à l'Asie, ils ont atteint une limite et leur force d'expansion se retourne contre eux-mêmes. Il semble peu probable qu'ils arrivent à se contrôler. On m'a souvent demandé si je pourrais pas définir des lignes de conduite, une méthode ou une religion qui pourrait sortir l'Occident de l'impasse et du moins aider quelques-uns à se réaliser. C'est tellement beau de se réaliser. Mais je ne suis ni un maître ni un prophète. Dans un monde qui court à sa perte, selon la théorie des cycles, il n'existe de salut qu'individuel. Alors ça, c'est un acte peu partagé pour tout le monde, mais ça existe. Nous approchons, selon la conception hindoue, de la fin du Caligula, l'âge des conflits qui doit finir par un cataclysme. Alors, si je peux vous indiquer, lisez René Guénon. René Guénon nous parle très bien du Kali Yuga. C'est un beau passage qui explique finalement une transition où l'on changera et l'on, normalement, on s'améliorera. Nous deviendrons des hommes accomplis. La fierté véritable, d'après Ivo Hendrix, dans son livre « Signe au bord du chemin ». La vraie fierté se suffit à elle-même. Mais la vraie fierté est chose rare. Nous avons affaire bien plus souvent à l'orgueil. Je vais poursuivre, après avec la vanité et la prétention, ce joli texte, mais je vais vous refaire une petite pause musicale avec Lynn Love.
Baby, may you love
Voilà, nous étions en compagnie de Lynn avec Love. Mais avant d'aborder le sujet des sentiments de l'amour avec l'homme, j'aborde le sentiment de la fierté véritable, d'après Ivo Hendrick dans Signe au bord du chemin. La vraie fierté se suffit-elle à elle-même? Mais la vraie fierté est chose rare. Nous avons affaire bien plus souvent à l'orgueil, la vanité, la prétention. Tantôt ils se dissimulent sous l'aspect et le nom de celle-ci, tantôt ils se présentent nus, sans le masque de la fierté. Et ils ne se suffisent jamais à eux-mêmes. Afin de se manifester et de s'accomplir pleinement, ils ont besoin de la reconnaissance et de l'admiration d'autrui, et souvent de son humiliation. Leur révélation est proportionnelle à l'abaissement des autres. Et comme elle n'est jamais assez grande, ils sont toujours agités, en mouvement, en train de chercher un tremplin sur lequel monter pour s'élever. La fierté, elle, est au contraire calme, satisfaite de ce qu'elle est. Et là où elle est, à condition que personne ne la touche. Les êtres fiers souffrent souvent à cause de leur fierté. Mais leur fierté leur permet de supporter toute souffrance. Au contraire, il arrive aux hommes vaniteux de s'humilier pour satisfaire leur vanité. Et bien sûr, ils n'y réussissent pas. Car la vanité, tout comme une femme capricieuse de mauvaise fréquentation, se retourne contre eux et leur reproche ce qu'ils ont fait pour lui plaire. L'orgueil, en revanche, est aveugle, abyssal. Personne n'a encore réussi à le rassasier. Et il ne sait dire rien d'autre que « encore, encore ». Plus vous lui donnez, plus vous vous sacrifiez pour lui et plus insolemment et impérieusement il exige. La fierté maintient et encourage l'homme sur son chemin. La vanité lui empoisonne la vie, dérange son travail et gâche ses rapports avec les autres, tandis que l'orgueil finit par dévorer l'homme tout entier. Avec ses talents et ses succès et inassouvi, insatiable, il cherche aussitôt une nouvelle victime. Voilà, quel bel écrit, n'est-ce pas, de Ivo Hendrick. Alors nous allons finir sur cette note magnifiquement bien et belle qui est l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour l'homme? D'après Tom Stoppard dans The Real Thing, c'est question de connaître et d'être connu. Je me souviens comment on a cessé de s'émerveiller de ce que, dans le grec biblique, le verbe « connaître » signifie faire l'amour. Un tel a connu une telle ou une telle. La connaissance charnelle, c'est ce que les amoureux se confient l'un à l'autre. La connaissance de l'autre, non pas de la chair, mais par la chair. La connaissance de soi, le vrai lui, la vraie elle, in extremis, le masque tombé du visage. Toutes les autres versions de soi sont offertes au public. Nous partageons notre vivacité, notre chagrin, nos bouderies, nos colères, nos joies. Nous les distribuons à quiconque se trouve dans les parages, aux amis et à la famille, avec un sentiment momentanément d'indécence peut-être, aux inconnus sans hésitation. Nos amoureux nous partagent avec les forains de passage. Mais à deux, nous insistons pour que nous donnions l'un à l'autre. Quel nous? Quel reste-t-il? Qui a-t-il encore qui n'ait pas été distribué comme un jeu de cartes? La connaissance charnelle, personnelle, définitive, sans compromis. Savoir être connu, je vénère cela. Avoir ça, c'est être riche. On peut être généreux avec ce qu'on partage. Elle marche, elle parle, elle rit, elle prête une oreille compatissante, elle enlève ses chaussures et danse sur les tables. Elle est à tout le monde et ça ne veut rien dire. Ils peuvent bien s'en repaître un peu. La connaissance, c'est autre chose. La carte non distribuée, et tant qu'elle est là, elle vous rend libre et facile et agréable à connaître. Mais quand elle n'est plus là, tout est douleur. Chaque chose, chaque objet qui croise son œil ou notre œil, crayon, mandarine, affiche de tourisme, comme si tout le monde physique avait été branché rien que pour faire passer un courant dans le parti de votre cerveau où l'imagination brille comme un filament dans une lobe pas plus grand qu'une ampoule de lampe torche. Douleur. Tom Stoppard. Alors je vais conclure à propos de l'homme, en conclusion justement. Que nous pouvons dire ? Une culture sans rapport avec la vie, ce serait ça l'homme ? Je ne sais pas, d'après Antonin Artaud, le théâtre et son double. Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de la culture et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la fin. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Quel beau passage de Monsieur Antonin Artaud, parti beaucoup trop tôt. Voilà, je vais terminer avec cette note de Don Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec, La voix de la liberté personnelle, édité en 1999. Je conclurai par les quatre armes du guerrier pacifique. 1. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire sur autrui. 2. Ne réagissez à rien de façon personnelle. Ce que les autres disent et font n'est que la projection de leur propre réalité et de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. 3. Ne faites aucune supposition. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. À lui seul, cet accord peut transformer votre vie. Et pour finir, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. C'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter dans le royaume de l'intermédiaire et de Radio Escapade. Et nous allons terminer avec une note musicale avec New Jeans, Our Night is More Beautiful.
Thank you. 두려워.